Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. On va parler d'une série tirée d'Arlan Coben et surtout du retour du spectacle vivant. Autre retour, et c'est également un spectacle vivant, Cyril Lacarrière et son journal des médias. Il y aura évidemment le journal de la culture d'Hélène Manarino et son portrait inattendu. Un sommaire très très riche ce matin. Nous serons avec le grand vainqueur de The Voice, Abby. Et quand je dis grand vainqueur, c'est pas une formule de journalisme. Il a été désigné par le vote du public avec davantage de voix que tous les autres candidats réunis. On va également parler de sport extrême avec l'émission Riding Zone. Notre infomédia, le Sénat, qui regrette que l'audiovisuel, un secteur qui pèse le même poids que l'automobile en France, n'a obtenu quasiment aucune mesure de soutien, alors que l'État annonce des centaines de milliards d'aides. Nous serons avec le sénateur André Gattolin, grand connaisseur des médias et très remonté. Enfin, le romancier Jean-Christophe Granger sera avec nous pour son nouveau roman événement Le Jour des Cendres, une sorte de continuation de sa saga Les Rivières Pourpres. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière, welcome back.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Le bébé se porte bien.
Il se porte bien, sa barbe est superbe.
Voilà, il nous écoute.
Évidemment.
Il faut quand même qu'on raconte ce qui s'est passé. Pendant la période de confinement, quand Cyril Lacarrière était à l'antenne, on entendait couit, 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 et c'était sa barbe qui frottait contre son téléphone. Cyril, on oublie la barbe. Qu'avez-vous au sommaire ce matin ?
Eh bien, ce matin, on parle de la quatrième chaîne d'info française en continu qui change de patron. Le coronavirus n'y a rien changé. Les Français, eux, sont toujours très méfiants vis-à-vis des médias. Retour sur un phénomène télé du confinement et une nouveauté sur TF1. Ici, tout commence.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
Ils ont regardé TF1. Rien n'a déclaré le film de Danny Boone. Il y avait un peu plus de 6 700 000 téléspectateurs. France 2 suit avec le film avec Tom Cruise et Cameron Diaz, Night and Day. Il y a presque 3 600 000 téléspectateurs et troisième place du podium pour M6 avec Zone Interdite à au-dessus des 2 700 000 téléspectateurs.
Et puis hier, il y avait également l'allocution d'Emmanuel Macron. Cyril, combien de Français ont regardé et ont écouté le chef de l'État ?
Il y avait du monde. 21 760 000 téléspectateurs étaient devant TF1, France 2, France 3 ou M6 hier soir. Ça représente 79% de part d'audience et on aura bien sûr les audiences des chaînes d'info à partir de 11h.
Et pour ce week-end, Cyril, quels programmes se sont distingués ?
Retour sur Terre pour TF1. La chaîne est orpheline de Koh-Lanta qui s'est terminée la semaine précédente. Et sans ses aventuriers, TF1 a laissé filer la position de leader vendredi soir. C'est une rediffusion de la série Candice Renoir sur France 2 qui s'est imposée avec un peu plus de 4 400 000 téléspectateurs. Et samedi, c'est France 3 qui a remporté le match des audiences de la soirée avec là encore une rediffusion, cette fois celle du téléfilm Les Mystères du Bois Galant, regardé par près de 4 900 000 personnes. C'est près d'1 000 000 de téléspectateurs de plus que la finale de The Voice, le dernier numéro du concours de chant qui a toutefois fait mieux que celui de la saison dernière.
Et Abby, le lauréat de The Voice, est dans les locaux et il sera avec nous dans quelques instants.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec un nouveau patron annoncé du côté de France Info Télé, le canal 27.
Oui, Laurent Guimier devrait bientôt succéder à Alexandre Cara. C'est en tout cas ce que croit savoir Le Figaro qui annonce l'arrivée imminente de l'ancien patron de France Info côté radio cette fois-ci. À en croire Le Quotidien, Alexandre Cara devrait lui être nommé directeur délégué à l'information du groupe France Télévisions. Moins de 4 ans après son lancement, la chaîne d'info du canal 27 va donc avoir un troisième patron différent après Germain Dagonier et donc Alexandre Cara. Je vous le disais, Laurent Guimier a dirigé la radio France Info, le site du Figaro. Il a été vice-président d'Europe 1 lors de la saison 2018-2019 et ce nouveau job sera sa première expérience côté télé. Sa mission est importante. La chaîne d'info du service public peine à trouver sa place face à BFM, LCI et CNews. À l'inverse de ses concurrentes, elle n'a jamais vraiment bénéficié des grosses crises qui ont frappé le pays pour doper durablement ses audiences, ni celle des Gilets jaunes, ni celle du coronavirus. En mai, sa part d'audience est de 0,6%. C'est presque 3 fois moins que celle de LCI et 6 fois moins celle de BFM TV. Charge donc à Laurent Guimier de tenter d'enfin faire de France Info Télé une référence de l'info, un marché très très concurrentiel.
Et les places sont d'autant plus chères qu'un sondage montre que si les Français ont beaucoup consommé les médias durant les semaines qu'ils ont passées chez eux, ils n'en ont pas pour autant cru ce qu'il s'y racontait.
Et oui, cela pourra bien apparaître comme un drôle de paradoxe. Les audiences de la télé et des sites d'info n'ont jamais été aussi élevées et pourtant plus de la moitié des Français ne font pas vraiment ou pas du tout confiance aux médias pour les informer. C'est ce qui ressort d'un sondage YouGov pour le site Le HuffPost. En fait, seuls 40% des personnes interrogées disent faire plutôt confiance aux médias. Pas franchement, de quoi se réjouir. Trois chaînes de télé s'illustrent comme étant celles qui ont le mieux informé les Français durant la période de confinement, BFM TV, TF1 et France 2. Malgré cela, de manière globale, un tiers de nos concitoyens disent qu'aucune des quatre chaînes d'information en continu ne leur inspire confiance. Je le disais, pas franchement, folichon tout ça.
Et puis alors, à défaut de croire ce qui se dit ou pas sur les chaînes d'info, une partie des Français s'est pris au jeu des cours de cuisine de Cyril Lignac. Son émission Tous en cuisine, qui s'est arrêtée vendredi, aura marqué la séquence du confinement.
Merci à tous d'avoir cuisiné avec nous depuis 3 mois. Merci d'avoir fait vivre ce pari un peu fou de cuisiner quotidiennement, en direct, partout en France. C'était un plaisir de dîner avec vous tous les soirs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur M6. D'ici là, soyez prudents, restez chez vous. Merci beaucoup.
On vous embrasse fort.
Il est au bord des larmes, il n'a plus de voix.
Hein. Ah oui, effectivement, il était très ému, Cyril Lignac, vendredi, lorsqu'il a rendu l'antenne pour sa dernière de Tous en cuisine sur M6. C'est une émission dont je vous ai pas mal parlé au fil des semaines, car c'est vrai que ce programme lancé en l'espace de quelques jours aura été une des réussites de la télé, toutes chaînes confondues. Tous en cuisine avec Cyril Lignac sur M6 s'est rapidement imposé face à TF1 dans la tranche de l'Access Prime Time, avant que la Une ne reprenne la main grâce à Qui veut gagner des millions. Mais le programme de la 6 est resté leader, important, hein, sur la cible commerciale des femmes, le responsable des achats de moins de 50 ans, tous les soirs, et ça depuis le 26 mars. Une belle performance. Pour M6, ses audiences sont même des records depuis 4 ans. À l'antenne et au fourneau, il y avait donc bien sûr Cyril Lignac, mais également Jérôme Anthony. Nous l'avons joint pour qu'il nous raconte comment il a vécu ce programme si spécial.
C'est une belle surprise, comme j'en ai pas vécu, peut-être dans tout mon parcours d'ailleurs. Très belle surprise qui arrive à un moment où on s'attend au pire. Non, mais ce qu'il y a de formidable, en fait, c'est que faire une émission en direct, c'est du pain béni, ça on le sait tous, dans des conditions techniques qui étaient quand même assez périlleuses. Hein. Donc vraiment, c'était technologiquement assez nouveau pour eux, pour nous, et ça a donné cette espèce de feu d'artifice qui est arrivé à un moment où ben, c'était le bon moment. Parce que ça s'est fait sans trop de calcul. Parce que voilà, Cyril faisait des recettes sur Instagram, et puis son producteur lui dit « Tiens, pourquoi on le ferait pas à la télé ?»« Ah bah tiens, pourquoi on le proposerait pas ?» Et puis le génie d'M6, c'est d'avoir mis 24 heures à dire « Ok, on y va ». C'est pas un format qui arrive de l'autre bout du monde. C'est un truc à nous, il y a une âme et quelque chose, quoi.
On le sait, un des points forts de ce Tous en cuisine, c'était le direct et l'interaction avec les familles qui cuisinaient en même temps que Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et j'ai demandé à ce dernier ce qu'il avait appris de son métier d'animateur grâce à ce programme.
C'est une émission qui s'est montée en amitié. Hein. C'est-à-dire que Cyril, on s'aime beaucoup et depuis longtemps. Cyril a envie qu'on fasse des émissions ensemble depuis longtemps. Comme son producteur, d'ailleurs, Mathieu Jean Toscani. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, en ce qui les concerne, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute. Ils m'ont tout de suite proposé avec eux. Et ils m'ont tout de suite proposé à la chaîne, qui a tout de suite été d'accord. Et là, comme moi, ça faisait longtemps que je me disais, la prochaine fois que j'ai l'occasion de faire des nouvelles émissions, des nouveaux projets, j'aimerais vraiment bien aller chercher les familles, les enfants. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur en télé. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir mettre en place tout ça. Alors, tout ce que j'ai fait avec cette émission, en fait, je l'avais déjà un petit peu appliqué il y a des années dans le morning. C'est-à-dire faire des happenings, mettre des perruques, rigoler, s'amuser, ne surtout plus se prendre au sérieux, faire un petit peu du Mariti Gilbert Carpentier, nouvelle génération, et surtout ne pas se prendre au sérieux.
Du Mariti Gilbert Carpentier, nouvelle génération, avec peut-être l'espoir de voir un jour une saison 2 de ce Tous en cuisine. Le producteur de l'émission disait à ce micro il y a quelques semaines qu'on pourrait imaginer Cyril Lignac revenir pour des moments un peu particuliers dans l'année. Évidemment, on suivra tout ça.
Et puis pour finir, Cyril, bientôt un nouveau feuilleton quotidien sur TF1.
Oui, après Demain nous appartient, TF1 nous présente Ici tout commence. C'est Ara Aprikian, le patron des programmes du groupe, qui nous l'a annoncé ce week-end. Et TF1 ne compte pas perdre de temps. Les tournages vont débuter dès cet été pour que le feuilleton puisse être à l'antenne à l'automne, alors qu'à l'origine, Ici tout commence, était prévu pour janvier prochain. Cette accélération du calendrier est une manière pour TF1 d'impulser, je cite, un signal fort et rapide de reprise. Ici tout commence sera tourné en Camargue, dans le sud de la France, donc comme Plus belle la vie, un si grand soleil.
Normal.
Et Demain nous appartient. Mais normal parce qu'on tourne là où il fait beau. En fait.
Exactement, voilà. Là où il pleut le moins, pour avoir le plus grand jour de tournage possible.
Ce nouveau feuilleton devrait trouver sa place sur la grille de TF1 juste avant Demain nous appartient.
Il y aurait les deux.
Il y aura des lieux.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Demain.
Et il a remporté la 9e saison de The Voice et est avec nous pour partager ses premières impressions. C'est Abby qu'on accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et place Philippe à notre premier invité.
Le gagnant de la saison 9 de The Voice est... Abby. Abby, talent de Pascal Obispo, remporte The Voice 2020.
Bonjour Abby.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous, de bon matin, félicitations. 22 ans seulement, vous avez remporté, on vient de l'entendre avec la voix de Nikos, la finale de la 9e saison de The Voice, samedi soir, face à 3 autres candidats et dates. C'était Gustine, Antoine Dely et Tom Rochet. Vous avez eu le temps de rentrer, vous habitez où?
J'habite à Saint-Gratien dans le 95.
Pas très loin d'ici, vous avez eu le temps de rentrer chez vous ou pas?
Non, pas encore.
C'est le tourbillon.
C'est le tourbillon des interviews, ouais. Un petit peu partout.
Et la fête ou pas?
La fête aussi.
Vous avez eu le temps de dormir?
Non, pas trop.
Vous avez toujours la gueule de bois ou ça va?
J'ai pas trop le temps de dormir. On enchaîne et voilà, ça s'arrête.
Les coupes
jamais.
De champagne?
Les coupes de champagne, un petit peu de ça.
Ah bon, voilà. Victoire haut la main, 53,4% des votes. C'est-à-dire qu'à vous seul, vous avez obtenu plus de voix, que les 3 autres candidats. C'est ce qu'on appelle gagner au premier tour, je pense, au municipal. Mais c'est une victoire pas vraiment surprenante. Avant cette finale, déjà, on disait de vous que vous étiez le favori, le chouchou du public. Vous en aviez conscience?
Pas vraiment. J'avais du mal à me rendre compte de ça. Je préférais ne pas me faire d'illusions parce que je me disais que justement les illusions mènent aux désillusions. Mmh. Et je préférais ne pas me mettre en tête que j'étais un favori ou quoi. Donc je me disais juste que j'étais au même niveau que les autres et qu'on allait voir ça quand le public déciderait, tout simplement.
Voilà, pour reprendre le parallèle avec les élections, je pense à tous ceux qui se voyaient beaux et qui n'ont pas été élus. On va écouter ce que Nikos Aliagas a dit de vous au moment de votre victoire, Abby.
Celui qui est arrivé avec sa timidité, celui qui se cachait sous le canot pour choisir son coach, le voici dans la lumière, le voici plébiscité par le public.
Bravo Pascal.
Au terme d'une saison absolument extraordinaire.
C'est agréable d'entendre ça sans plus aucune pression, parce que là vous êtes sûr d'avoir gagné.
C'est ça, c'est fou, parce que en fait il se passait tellement de choses dans ma tête, mm-hmm. que je me souviens même pas réellement d'avoir entendu ça.
Ouais.
C'est fou.
Et en plus vous étiez à jeun. Et alors quand Nikos dit que vous cachiez sur le piano, c'est pas seulement une image. Voici ce qui s'était passé le 1er février. C'était au moment où vous deviez choisir votre coach entre 4.
Pour ce qui est du choix, c'est si difficile. Est-ce que je peux me cacher?
Vas-y, cache-toi.
Pendant que...
Tu veux te cacher où?
Mais je réfléchis bien. Je me cache derrière le piano, comme ça vous ne voyez pas.
Pour la galette des rois.
C'est génial, il faut faire du piano ou de la contrebasse dans ces cas-là. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à monter sur scène quand on est aussi timide?
Je pense que quand on est sur scène, on rentre dans quelque chose d'autre, on rentre dans un personnage, on rentre dans la chanson.
Ouais.
Et effectivement, il y avait un paradoxe entre le personnage que j'étais en dehors et sur scène, mais je me rendais pas nécessairement compte de ça.
Mais vous êtes forcé, vous êtes fait violence?
Ça a été un combat, ouais. Surtout grâce à Pascal Obispo qui m'a pas mal secoué, qui me disait très souvent « Allez, montre que t'es là,
ouais.
Arrête de t'excuser d'être là, en fait, tout simplement. »
Et alors ça a réussi. Au moment de votre victoire, à cause de la situation sanitaire, vous n'avez pas pu vous jeter dans les bras de vos camarades. Vous êtes contenté de faire des checks du poing, mais vous n'avez pas pu résister à l'envie de serrer votre coach dans les bras, Pascal Obispo.
Je crois que ce geste qu'on ne recommande pas nous a terriblement manqué. Terriblement manqué. Être dans les bras de l'autre et partager une joie.
Voilà, Pascal Obispo qui actuellement est en réanimation. Non, je déconne. Alors, il faut dire que... Non, il va très très bien Obispo. C'était parce qu'il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre et qui disent « Ah bon, il va pas bien, il va très très bien ». Alors, il faut dire que le coronavirus a été omniprésent pendant cette saison de The Voice. Pour la première fois de l'histoire de l'émission, la finale s'est déroulée dans des conditions particulières, c'est-à-dire sans public. Les prestations ont été enregistrées, les votes évidemment et les résultats étaient en direct. Mais surtout, pas de public sur le plateau. Est-ce que cela vous a perturbé ou au contraire, la pression... parce que vous vous dites timide, était moins grande.
Ça a été perturbant en quelque sorte, mais je pense que ça a été un travail, parce que voilà, c'est un travail où il faut imaginer le public, parler au public à travers la caméra, et puis d'un côté, il faut dire ce qui est, ça fait effectivement redescendre la pression, parce qu'au moment des tournages, on se sentait comme sur une répète. avec une ambiance un petit peu plus détendue, et ça aide effectivement à mieux chanter en fait.
D'autant que la grande nouveauté de la saison devait être de tourner les lives en direct d'une vraie salle de concert, en l'occurrence le Palais des Sports, et non plus d'un plateau télé. Frustration pour vous ça ?
Frustration, il faut dire ce qui est. Après, sur le coup, on se rend compte que finalement c'est pas si grave parce que l'intensité y est, les émotions y sont. Et on vit toujours, malgré tout, une aventure incroyable.
Comment vous avez vécu cette période de coronavirus qui vous a stoppé en plein élan ? Quand l'émission a été interrompue, vous êtes dit quoi ?
Je me suis demandé si ça allait effectivement se passer. On avait de gros doutes. Et même au niveau de la production, ils n'étaient pas sûrs du tout. Et on a dû prendre notre mal en patience. Et il y a eu quand même un gros, gros soulagement quand on a su que
quand ça a repris.
Ça allait arriver, ouais.
Puis ensuite, re-angoisse en vous disant « et si c'est pas moi qui gagne ?»
Alors, je m'attendais pas à gagner, pour être honnête. Ouais. Je m'y attendais pas et je me disais « c'est que du bonus, surtout arrivé en finale, il n'y a pas d'étape au-dessus. Mm-hmm. » Et tout ce qu'on a fait jusque-là, ça a été une super aventure et on ne peut pas aller plus loin, c'est déjà une victoire. Quoi.
Et pendant la période de confinement, vous étiez avec votre coach Pascal Obispo ou est-ce que ça existe que pendant les tournages ? Ou est-ce que vous parliez toujours ?
Non, effectivement, je m'attendais à ce que ce soit le cas et que ce soit seulement sur les tournages, mais on a eu la chance d'avoir des coachs qui nous ont suivis même en dehors de l'émission. Et voilà qui, Pascal Obispo en tout cas, prenait son rôle très à cœur dans la mesure où il me coachait. Et, voilà,
mais comment alors ? Il vous a dit, vas-y, fais ta méthode rose, parce que vous êtes pianiste aussi. Vous avez travaillé, qu'est-ce qu'il vous disait ?
Alors, je me souviens, il m'a... Bon, j'abuse un petit peu sur le terme, mais il m'a engueulé un petit peu me disant ce que tu nous as envoyé, c'est... Il faut que tu ouvres la bouche, on a l'impression que tu as une patate dans la bouche, une patate chaude dans la bouche, il faut que tu chantes, tu ouvres la bouche quand tu chantes. Et effectivement, ça m'a aidé et c'est ce qui m'a permis, pendant le confinement, de travailler, de préparer la suite correctement.
Et là, vous ne le regrettez pas, justement. Et pourquoi avez-vous justement choisi Pascal Obispo comme coach ?
Très bonne question. Je pense que je l'ai choisi pour le challenge, là où ça allait être le plus intéressant. Je ne chantais pas forcément en français à la base. Mmh. Et je savais pour le coup qu'il allait me faire chanter en français. Je savais pour le coup qu'il allait me faire galérer. Et j'ai été servi à ce niveau-là. Et puis, quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est son franc-parler. Sa franchise et il dit les choses sans se retenir. Ouais. Et puis son côté humain, un petit peu cette folie qui donne envie de travailler en fait.
Vous savez quoi, Abby ? On vous a même pas entendu chanter. On va entendre votre dernière prestation, c'était sur la scène de The Voice, qui a aussi été la toute première puisque c'était la chanson interprétée lors de votre audition à l'aveugle, celle qui vous a permis d'intégrer l'émission. Le titre, c'est Lovely de Billie Eilish. I thought I found a way, yeah. But you never go away, so I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out. Vous êtes content de vous entendre, vous êtes en train de sourire.
Non, c'est que en fait je réalise que entre la première et la dernière prestation, effectivement, j'ai appris plein de choses. Ouais. Et qu'il y a eu des progrès. Quand j'entends ça, je me dis, on a fait du chemin, on a avancé. Parce que quand j'écoute la première, je peux dire que je tire la grimace.
N'oubliez jamais le conseil de Pascal Obispo. Vous allez enregistrer un album, vous avez des titres prêts. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, en un mot ?
Alors, j'écrivais, je continue à écrire. Et en très peu de mots, je vais continuer à bosser d'arrache-pied. Et voilà, pour produire quelque chose qui sera à la hauteur de ce que le public m'a donné, c'est-à-dire... Ce qui m'a donné en me permettant d'arriver en finale et en me permettant de gagner.
Et là, je peux vous dire, vous n'avez pas besoin de travailler les interviews, c'était parfait. Merci beaucoup, Abby.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le gagnant de la 9e saison de The Voice sur TF1. Merci d'avoir choisi Europe 1 et d'être en direct avec nous.
Merci.
À suivre l'info média du jour avec notre invité, le sénateur André Gattolin. Il vient nous parler des propositions du Sénat pour relancer l'audiovisuel dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour et on va parler de la crise qui touche également l'audiovisuel français.
Bonjour André Gattolin.
Bonjour.
Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine et surtout grand connaisseur de l'audiovisuel et des médias. Vous faites partie d'un groupe de travail du Sénat qui a réclamé jeudi une franche mise à jour de la politique en faveur de l'audiovisuel. Vous avez noté que les sénateurs avaient noté que les médias ont été très présents pendant toute la crise, l'info mais également le divertissement, l'éducation, et ils ont été, je vous cite, les grands oubliés des plans de relance. Mais ça, c'était la semaine dernière. Hier soir, vous avez entendu, comme moi, l'allocution du président Macron, notamment ce passage sur la relance de l'économie après la terrible crise qu'on vient de vivre, avec un gros effort de la puissance publique.
Nous avons décidé des plans massifs pour des secteurs les plus durement touchés. L'industrie automobile, l'aéronautique, le tourisme, la culture, la restauration, l'hôtellerie. Et nous poursuivrons. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros.
8 milliards d'aides pour l'automobile, 18 milliards pour le tourisme, 15 milliards pour l'aéronautique. Et pour l'audiovisuel, combien ?
Bah rien, pas grand-chose, en tous les cas pour le moment.
Ouais. Et l'audiovisuel, je cite votre collègue, le sénateur Jean-Pierre Leleux, l'audiovisuel qui pèse le même poids que l'automobile, qui a obtenu un fonds de soutien de 50 millions pour la production. J'ai fait le calcul, 8 milliards pour l'automobile, c'est-à-dire 160 fois plus. Comment vous expliquez ça ?
Alors déjà, ce chiffre, ce parallèle entre l'automobile et l'audiovisuel est rigoureusement faux.
C'est un chiffre à votre collègue.
C'est cité en bas de page et c'est tourné de manière à ce que ce ne soit pas totalement faux. C'est le CNC qui depuis des années dit que tous les secteurs qui sont aidés par le CNC représentent 340 000 emplois. Ils comprennent le jeu vidéo, ils mettent pratiquement rien dedans. Mmh. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'emplois dans l'audiovisuel, le dernier rapport d'Alain Le Diberder, c'est en équivalent temps plein, c'est 90 000 emplois maximum. L'automobile, c'est 400 000 emplois nets. Donc, un mauvais point pour mes collègues, on ne peut pas comparer l'automobile et l'audiovisuel. C'est vrai que l'audiovisuel, il y a plusieurs, on dit, il y a le secteur aidé. Il y a un secteur qui est national, qui est celui de l'audiovisuel public, où il y a déjà quand même plus de 3 milliards qui tombent dans l'escarcelle tous les ans. Donc, ces gens-là ont moins subi les chutes de recettes publicitaires. Mmh. Ce qui est inquiétant, ce sont réellement les médias, je dirais, historiques, chaînes ou télévisions nationales, privées, qui, elles, s'en sont pris plein la tête.
Avant de dresser un état des lieux, comment avez-vous travaillé ? Vous avez auditionné pendant 2 mois les principaux dirigeants de la filière. Qui avez-vous entendu ?
On a rencontré tous les présidents de chaînes, les patrons des grandes stations, on a vu aussi les radios et les télévisions indépendantes, les grands producteurs, Media One, Banijay, Newen. Enfin, on a vu beaucoup de monde, le CSA, le patron, le président du
Roch-Olivier
Maistre, etc. Donc, on a tout fait en visioconférence, faut bien le dire, hein, mais ça marche pas mal. Et en tous les cas, effectivement, il y avait à voir qu'est-ce qui se passe dans la période post-Covid.
Et je vais citer les PDG du groupe, Delphine Ernotte pour France Télévisions, Nicolas Taverneau pour M6, Gilles Pélisson pour TF1, Maxime Saada pour Canal+. Ouais. Quel état des lieux, André Gattolin, dressez-vous ?
Moi, je dis, alors, quand on dit qu'il n'y a pas d'aide, il y a les aides indirectes. Hein. Tout ce qui était fait en termes de chômage partiel, d'aide, les décisions qui ont été prises sur l'année blanche et la date anniversaire sur les intermittents, ça impacte directement. Mais on a un vrai souci. Effectivement, il y a un fonds de 50 millions assurantiels pour les tournages de films et de documentaires. Comme toujours, c'est le patrimonial qui prend l'argent. Le lobby du cinéma est quand même très fort dans ce pays. Les émissions de flux, que dalle. On discute d'un fonds de 17 millions d'euros pour permettre les tournages. Si vous êtes dans un lieu confiné sur une série comme Fort Boyard et que quelqu'un chope le Covid, c'est toute la production qui est arrêtée.
Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice justement de Fort Boyard, nous parlait de ça. Elle trouvait aucun assureur. C'était la semaine dernière. Ils doivent démarrer dans quelques jours et on ne sait toujours pas.
Ils n'ont pas d'assureur. Quand on leur demande, c'est des prix astronomiques. Et je rappelle que ces producteurs délégués privés ne sont pas assurés par la chaîne. C'est-à-dire qu'ils y sont de leur poche. Donc là, il y a quand même un manque. Et c'est vrai que ce sont des gens qui viennent rarement tendre la sébile auprès des pouvoirs publics. Mmh. Donc le cinéma, on est habitué, on donne. Il y a toujours 5 grands acteurs qui vont dire « le cinéma est en danger ». C'est quand même l'industrie dans ce pays la plus soutenue et la plus aidée. Nous avons le reste de la télévision. Et surtout, je parle des chaînes radio et télé privées qui ont perdu parfois jusqu'à 75% de leurs recettes publicitaires pendant la période.
Bien sûr, l'audience montait, mais les recettes plongeaient dramatiquement. Alors, parmi les 10 propositions que vous faites, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de rapports, on est en France, vous ne vous contentez pas de faire un état des lieux, vous avez des solutions, 10, on ne va pas tout détailler, je vais en citer une la plus forte et la plus puissante, évidemment, qui a le plus marqué, refonte de la redevance télé en taxe universelle, que ce soit inscrit dans le projet de loi de finances, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce que ça changerait que la redevance télé change et devienne une taxe universelle ?
Bah, déjà, ça permettrait d'avoir... On a toujours joué avec cette redevance en la rendant pseudo-universelle et en dégrévant des millions de foyers. Moi, je préfère une redevance globalement moins élevée, mais qui touche un public plus large.
Ouais.
Le service public doit être largement indépendant. Il faut que ces ressources soient garanties dans le temps. la meilleure façon, c'est d'avoir une redevance et pas une budgétisation ou de rajouter à chaque fois. Après, il y a un cadre de moyens qui est assez prévisible hein, en termes de recettes et qui permet très clairement d'assurer le financement de l'audiovisuel public.
Mesure choc, la suppression dès que possible de la publicité le week-end sur les chaînes publiques avec l'objectif d'arrêter totalement la publicité sur l'audiovisuel public en 2025. Pour quelle raison ?
Alors ça, vous savez, dans ce genre de commission, on n'est pas tous d'accord. Moi, je dis, il y a une réalité, c'est que la publicité est en train de se casser la gueule, y compris sur le service public. Mmh. Donc il faut prévoir sa disparition, remplacée par d'autres sources. Je suis contre une télévision publique qui soit financée que par la redevance. Dans les autres pays, vous prenez la BBC, il y a plus d'un milliard de chiffre d'affaires qui est généré par les produits dérivés, par leur production. Pourquoi ? Parce qu'ils créent des formats, ils créent des émissions, ils créent des films et des documentaires qui s'exportent. Mmh. En France, c'est une grosse cata, c'est-à-dire que l'exportabilité de ce que nous faisons, aujourd'hui, vous allez sur France Télévisions, tous les nouveaux formats qui sont créés, ce sont des rachats de formats achetés à Warner. Mmh. Vous savez que dans la production d'une
émission... Mais revenons, ma question portait sur la publicité.
Sur la publicité. Moi, je crois qu'il faut prévoir une extinction progressive de la publicité. On n'est peut-être pas obligé de la provoquer. Il faut qu'il y ait une seconde ressource. Si vous vivez que de l'argent public automatique, il faut que vous ayez un incentive. Finalement, l'audience et la publicité étaient quelque chose qui poussait quand même à faire mieux. Si c'est l'exportabilité, c'est la créativité, l'invention de nouvelles émissions qui rapportent de l'argent à l'exportation, il faut qu'il y ait ça en contrebalance avant de supprimer la publicité.
Beaucoup d'autres mesures. André Gattolin, vous restez avec nous. On continue à détailler le plan d'action souhaité par le Sénat.
Oui, on continue à en parler avec notre invité dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Dans l'infomédia du jour, on revient sur les propositions du Sénat pour relancer l'audiovisuel et on en parle avec notre invité, le sénateur André Gattolin, membre du groupe de travail Covid-19 Média Audiovisuel, Philippe.
Alors, on a parlé de la suppression dès que possible de la pub le week-end sur les chaînes publiques avec, à terme, plus de publicité en 2025. Mise en place également préconisée par le Sénat, par votre commission, d'un crédit d'impôt pour ceux, pour les éditeurs qui investissent dans la production, l'information. On avait parlé d'un crédit d'impôt ouvert à tous les annonceurs. Vous dites non, expliquez votre choix.
Non, parce que le crédit d'impôt ouvert à tous les annonceurs, c'est très vite un effet d'aubaine. Vous voyez aujourd'hui l'automobile qui a moins annoncé, sur-annonce dans les médias. Il ne faut pas que la publicité qu'ils allaient faire naturellement à la reprise soit financée avec l'argent public, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Un crédit d'impôt, tout ça pour alimenter les chaînes. Il vaut mieux donner un crédit d'impôt directement aux diffuseurs, aux chaînes, aux stations, avec aussi des contraintes. Des contraintes, c'est que ça aille aussi dans la production de contenu. Que ce ne soit pas là pour payer, les frais de fonctionnement et les salaires. Là-dessus, il y a eu des systèmes d'aide. Donc moi, je suis plutôt pour un crédit d'impôt de ce type. Il est plus ciblé, il est plus direct, il est plus économique.
Et ça serait réservé à l'achat de programmes...
Je crois pas au ruissellement de l'argent, vous voyez.
Ça serait réservé à l'achat de programmes français et européens. Et alors là, mesure qui va faire hurler, surtout du côté de BFM TV... réorganiser la numérotation des chaînes d'information, spécifiquement BFM TV sur le canal 15, CNews le 16, LCI le 26, France Info le 27. Ils sont séparés. Là, vous voudriez les regrouper pour créer un bloc unique. Ça changerait quoi ?
Bah ça, c'est le but du rapporteur. Ouais. C'est un dada de la commission culture médias au Sénat. Moi, je ne suis pas particulièrement favorable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu les gens de France TV Info qui nous ont dit « Nous, on n'a pas fait de bonne performance d'audience. C'est parce qu'on est exilé, on n'est pas à côté de CNews et de BFM TV. » Alors qu'ils sont à côté de LCI et qu'LCI a pris 67% d'audience en plus. Donc le problème, il vient de France Info TV plus que de la situation sur les chaînes. Après, que ce soit mieux organisé pour le téléspectateur quand il zappe, pourquoi pas ? Mais on a trop de chaînes info dans ce pays.
France Info TV, dont on annonce un nouveau patron, Laurent Guimier, Cyril Lacarrière, nous le disait. Quid de France 4 ? Sa disparition de la TNT était annoncée le 9 août. Les rumeurs prétendent qu'elle sera maintenue par le gouvernement et c'est aussi ce que vous préconisez.
Oui, alors là, moi, je suis pour que on maintienne et qu'on renouvelle France 4. Parce que France 4 faisait des audiences, il faut bien le dire, jusqu'à présent assez médiocres, avec un ciblage qui va de 2 ans à 35 ans. On s'y perd, la jeunesse, c'est pas la même entre 2 ans et 35 ans. C'était beaucoup de la fiction achetée à l'extérieur. Là, ils ont fait des programmes éducatifs le matin.
Lumière.
Et ça a marché. Mmh. Et donc, je dis, il faut un nouveau France 4. Il faut prolonger à condition qu'on fasse de l'éducatif et du ludique intelligent et produit en France.
Attention, ça a marché parce que les enfants n'allaient pas à l'école. À partir du 22 juin, quand les enfants vont retourner à l'école, les audiences du matin, elles vont disparaître.
La crise du Covid, un, n'est pas terminée. Deux, c'est pas mal. Comme en Royaume-Uni, que les enseignants s'appuie aussi sur des programmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les programmes pendant les horaires d'école, mais qu'il y ait à disposition des programmes éducatifs. Ça fait 20 ans qu'on parle de faire une chaîne éducative. La cinquième, quand elle a été créée, elle devait être une chaîne aussi d'éducation et de formation. Personne ne veut faire ça en France. Là, on l'a fait avec l'urgence, avec le soutien de l'éducation nationale, et ça marche. Donc, ça vaut le coup qu'on continue, mais il faut un nouveau France 4 et il ne faut pas donner un blanc-seing à la direction de France Télévisions.
Qu'est-ce qui va se passer justement pour la direction de France Télévisions si la réforme ne se fait pas telle que ça a l'air de prendre le chemin ? Delphine Ernotte, qui est candidate à sa propre succession, risque d'avoir plus de candidats puisque normalement son mandat qui devait durer seulement 2 ans pour une espèce de transition de tuilage va durer 5 ans. Que va-t-il se passer selon vos infos ?
Alors déjà, moi je ne sais pas où en est la loi sur l'audiovisuel, si elle est totalement arrêtée. On a décidé de faire passer des mesures en urgence, et on y reviendra peut-être dans un instant, d'ici l'automne, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes. Après, moi, je crois qu'il faut une réforme de l'audiovisuel. Tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Delphine Ernotte ? Il y a d'autres candidats. On n'a pas encore la liste des candidats. On le saura autour du 10 juillet. Moi, je ne suis pas persuadé que ça a été la meilleure directrice de France Télévisions qu'on ait eue. Donc je pense que je serais favorable à ce qu'il y ait un certain renouvellement, mais les candidats ne se poussent pas à la porte actuellement.
Delphine Ernotte, dites-vous, elle sera contente de vous entendre. Merci beaucoup André Gattolin, sénateur LREM des Hauts-de-Seine, grand connaisseur de l'audiovisuel public et privé français. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 en direct.
Notre prochain invité est Jonathan Politure, réalisateur et passionné de sports extrêmes. Il a créé l'émission Riding Zone, l'actualité de la glisse et des sports extrêmes. Il vient nous en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jonathan Politure.
Bonjour Jonathan Politure.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes le créateur et producteur de Riding Zone, émission hebdomadaire consacrée au sport extrême. Je vais le dire une fois pour toutes. Non, je le dirai aussi à la fin. C'est le samedi matin sur France 3, c'est à 10h50. Et le dimanche matin sur France O, 10h40. C'est une émission qui est incarnée par Tiga, l'animatrice qu'on peut également voir dans Échappée Belle. Alors expliquez-nous le concept de l'émission Riding Zone. D'abord, ça veut dire quoi ?
Riding Zone, c'est un terme un peu anglo-saxon qui vient de l'univers qui veut dire ride. Ça veut dire globalement monter, que ce soit monter à cheval, monter une moto. Et c'est un terme qu'on a utilisé pour l'univers des sports extrêmes.
Alors, chaque semaine, il y a 26 minutes, l'actu des sports extrêmes et également des portraits de passionnés, des défis, des caméras cachées. Quelle définition vous donnez au sport extrême ?
Alors, les sports extrêmes, c'est une définition assez large. Globalement, dans cet univers sportif, on va comprendre les sports à sensation, les sports de glisse, les sports outdoor.
Ah, tous les sports de glisse ?
Tout à fait, tous les sports de glisse. Donc en fait, tous les sports de glisse ou tous les sports outdoor ne sont pas extrêmes, mais par extension, c'est un univers de sport très très large.
Parce que le motocross, vous le classez dans les sports extrêmes ?
Exactement.
Et la Formule 1 ?
Alors, la Formule 1, c'est aussi extrême, mais ce n'est pas spécialement classé comme un sport extrême. Vous avez raison, ça fait partie des sports quand même les plus extrêmes. Voilà. Quand vous prenez d'ailleurs le Super G en ski, c'est un sport avec des grands circuits de compétition traditionnels, mais c'est un sport qui est quand même extrême dans sa pratique.
Mais il y a aussi que la Formule 1, par exemple, vous n'avez pas les droits, et c'est une émission qui a la marge. C'est aussi passer des sports qui ne se passent pas dans les émissions traditionnelles, genre les JT et Stade 2.
Alors, c'est tout à fait ça, Philippe. Là, vous pointez du doigt ce qui fait Riding Zone, en fait. Nous, dans notre univers, du skate au parapente, en passant par le surf ou la motocross, il n'y a pas de grand circuit de compétition, en tout cas connu du grand public. Évidemment, ces compétitions existent, mais elles ne sont pas connues du grand public. Donc nous, depuis des années dans Riding Zone, ce qu'on met en avant, on met en avant les hommes et les femmes qui pratiquent ces univers sportifs et on raconte des histoires d'hommes et de femmes passionnés qui pratiquent, parfois en famille, et ce sont ces histoires qu'on raconte dans Riding Zone.
Exemple, un reportage au sujet du vice-champion du monde d'apnée, il s'appelle Stéphane Toureau. Il s'apprête à plonger dans les profondeurs de Mayotte pour nager avec les requins.
Les deux hommes vont plonger à 30 mètres sur une partie effondrée de la barrière de corail. Une fois à l'eau, Stéphane se prépare durant de longues minutes. Il optimise son oxygénation et se concentre afin de pouvoir passer le plus de temps possible sous l'eau. Les requins sont des animaux très craintifs. Ils sont tapis par 30 mètres de fond et fuient les bulles que produisent les bouteilles de plongée. L'ensemble de l'équipe technique décide donc d'accompagner Stéphane en apnée avec une corde lestée. Il passe à peine quelques minutes sous l'eau à chaque descente. Il va donc falloir être patient et enchaîner les apnées pour espérer croiser les squales.
Donc là, la caméra suit le champion d'apnée au plus près en profondeur. Comment vous faites techniquement ? Il faut avoir des journalistes courageux, sportifs. Il y en a qui ont plongé, qui ne sont jamais remontés ?
Non, quand même pas. À chaque fois, on fait très attention. Mais en effet, l'équipe qui compose Riding Zone est vraiment très, très importante. À chaque fois, on fait appel à des savoir-faire spécifiques. Pour accompagner Stéphane, on a fait appel à Mathias Lopez, un réalisateur spécialisé dans les images sous-marines notamment. Et puis, en fonction des tournages, que ce soit à la montagne, dans l'eau, on fait appel à des savoir-faire très particuliers.
Et vous cassez le game de vos collègues, parce que je l'ai appris là, je ne savais pas que les bulles faisaient peur aux requins. Moi, quand je voyais les images, je me disais, les gars, ils sont avec des requins. Non, si les bulles font peur, c'est moins dangereux.
Oui, en effet, les bulles font peur. Donc, c'est pour ça que depuis quelques temps, il y a des plongeurs qui plongent avec des techniques qui permettent d'enlever les bulles pour se rapprocher encore plus de la faune aquatique.
Mais quand moi, je vois des docs sur les requins, ils ne disent pas, ne vous inquiétez pas, le requin a peur des bulles. Je l'ignorais complètement. Merci d'avoir cassé le mythe. Vous faites également des caméras cachées. Donnez-nous quelques exemples de camcache.
Alors, on a fait, par exemple, on a piégé une moto-école avec Sarah Lizito, qui est une championne de moto. On a piégé une célèbre enseigne de distribution d'articles sportifs avec un champion de VTT, où on a fait passer ce champion de VTT pour un acheteur lambda, et donc il va piéger un vendeur de cette enseigne. Et donc, c'est grâce à ces contenus, en fait, qui sont, on va dire, loin de la compétition sportive, qu'on a réussi à irradier bien au-delà de notre bassin d'audience naturel. On est né sur France O, mais depuis 5 ans, on est très présent sur les réseaux sociaux et on a réussi, contrairement à beaucoup d'émissions, à faire le lien avec notre cible, à savoir la jeunesse, les moins de 40 ans, et notamment sur les réseaux sociaux. Et Riding Zone, en plus de la diffusion télé, est très présent sur YouTube, est très présent sur Instagram, sur Facebook, et c'est une très très belle marque pour France Télévisions, qui permet à France Télévisions de toucher sa cible aussi sur le digital.
Vous avez les chiffres en tête ?
Alors,
Je les ai, c'est pour ça, mais allez-y.
Ah bah, écoutez, alors, à la télévision, c'est quelques centaines de milliers de personnes, mais sur le numérique, on est sur des dizaines de millions de vues, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 365 derniers jours, on est sur plus de 90 millions de vues sur YouTube et c'est des centaines de millions de vues quand on cumule les Facebook et les Instagram.
Votre public, c'est qui ?
C'est essentiellement des hommes, des moins de 40 ans ou moins de 50 ans, essentiellement des hommes. Ce sont des gens qui sont pas forcément des pratiquants, puisqu'on a dépassé...
Ça, on peut pas être pratiquant. Faire de l'apnée avec des requins, personne peut être pratiquant à part une vingtaine de personnes dans le monde.
En tout cas, ce sont des gens qui aiment cet univers. Cet univers, en fait, il est formidable. Pourquoi ? Parce qu'il est créatif. Il est lié à l'univers de la liberté. Il y a donc cette créativité qui fait que constamment, il y a des choses qui sont créées tant en termes d'engins, de pratiques, de nouvelles disciplines que de défis. Que de défis,
mais
tout à fait.
Justement, moment fort de l'émission, les défis extrêmes, originaux ou drôles. Ce jour-là, c'est défi posé à un skateur très créatif.
Adrien, de son vrai nom, est un rider hors du commun avec une imagination débordante.
Moi, ma spécialité, c'est essayer de faire des figures un peu pertinentes, cocasses, servir d'accessoires, je trouve, dans la rue, au hasard.
Sur Instagram, ses vidéos cartonnent et ses abonnés se comptent par dizaines de milliers.
Ouais, j'ai pas mal de gens qui pratiquent pas le skate, qui m'envoient des messages pour me féliciter. Il y en a pas mal aussi qui disent que grâce à mes vidéos, ils se sont mis en skate.
Nous l'avons mis au défi de réaliser le plus de tricks décalés et cocasses à faire en un minimum de temps.
Ouais, premier objet, on est tombé sur un chariot là, donc on va essayer peut-être de faire une petite figure avec, quoi. Pourquoi pas ?
Céline Dacosta, vous avez déjà fait des tricks décalés cocasses.
Évidemment.
Vous avez re-signé Jonathan Politour pour la rentrée ?
Alors, pas encore. Mais j'ai confiance parce que ça fait 13 ans que le groupe France Télévisions nous accompagne. Ils croient normalement beaucoup en Riding Zone, qui est l'un des rares programmes quand même dédiés aux jeunes, qui a fait en plus, donc, qui fait le grand écart tant sur la télé que sur le digital. Donc c'est un programme qui répond à beaucoup d'objectifs.
Je m'adresse aux producteurs. Est-ce que vous pourriez exister uniquement sur YouTube, vu le succès des vidéos, ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin dans l'environnement du financement de la télévision et même de l'imprimatur de la télé ?
On n'a pas spécialement besoin de l'imprimatur de la télé. En revanche, on a besoin vraiment du soutien de la télé, notamment pour le financement, parce que la télévision nous permet de raconter des histoires et de faire ce métier-là, c'est-à-dire de sélectionner avec mon équipe les meilleurs personnages et de raconter les histoires de la meilleure façon possible, avec le plus de moyens possible. Et ça, c'est ce que nous permet la télévision. Aujourd'hui, YouTube ne nous le permet pas, tout simplement parce qu'on n'est pas des YouTubeurs classiques, on ne se filme pas dans notre chambre avec un téléphone, donc on a besoin d'équipe, de personnel pour faire cette émission. Et en tout cas, on est très très fiers de faire ce programme.
Voilà, et vous avez vu, le sénateur Gattolin disait que France 4 risque de continuer longtemps et donc France O aussi à sa suite. Merci Jonathan Politure. Riding Zone consacré au sport extrême, c'est le samedi à 10h50 sur la 3 et le dimanche à 10h40 sur France O. Il y a votre skate qui est garé en bas qui gêne un peu. Merci merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Culture Média qui continue dans quelques instants. Il y aura le journal de la culture. Notre invité, c'est Jean-Christophe Granger pour la sortie de son nouveau roman très attendu. Ça s'appelle Le jour des cendres. Il y aura évidemment son portrait inattendu, lui, par Hélène Manarino. Et puis dans les indispensables, le Théâtre Européen qui prépare une grande soirée de l'humour retour vers la culture. Ça se déconfine le 22 juin prochain. Il y aura plein d'humoristes. Et Louise Bernard va tout nous expliquer. Et puis une série policière sur Netflix, Dans les bois, adaptée d'Arlène Coben. Margot Barallon va tout nous raconter, mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.